France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Victoire contre l'inflation, la maladie est soignée, dit aujourd'hui le gouverneur de la Banque de France. Mais à quel coût, de combien les prix ont-ils bondi ces trois dernières années? On rentre dans le détail dans un instant. À suivre encore la hausse des aides pour l'achat de véhicules électriques en France à partir du mois de juillet. Un incendie mortel à Reims la nuit dernière, nous serons sur place. Et puis des plaintes en France qui se succèdent contre Israël. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Israël accusé de génocide ou de complicité de génocide?
Oui, on va tenter de décortiquer ce qu'en dit le droit international et puis quelles conséquences lorsque des crimes sont qualifiés de génocide. On vous explique tout ça.
A tout de suite pour vos explications. Que faire face à la pollution au cadmium? Les médecins conseillent de limiter la consommation de céréales pour les enfants. L'un d'eux sera notre invité. A suivre encore la fête sans violence sexiste et sexuelle. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour.
Une commune du Gers met les grands moyens.
Ouais, la mairie de Vic-Fezensac accentue la lutte contre les violences sexuelles avec une campagne d'affichage. Très choc.
À partir de 13h30, l'un des meilleurs arbitres de tennis avec nous, le français Kader Nouni. Il arbitrait hier une demi-finale femme à Roland-Garros. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, direction Nice. Notre feuilleton sur la pêche se termine dans un restaurant. 13h50, c'est la France. Les accusations de corruption fleurissent au printemps dans le foot amateur. Ce sera avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Juste avant 14h, c'est une chanson. La chanteuse lyrique Lucille Richardot demande Jacques Higelin et Brigitte Fontaine. Et puis dans les prochaines minutes, nous décrypterons le phénomène cinéma du moment, Lilo et Stitch. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est toujours, si l'on en croit les enquêtes d'opinion, la première préoccupation des Français. Le pouvoir d'achat, et surtout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec l'explosion des coûts de l'énergie et de l'inflation. Eh bien, la hausse des prix est derrière nous, a tranché ce matin le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.
Nous avons gagné la bataille contre l'inflation en Europe. Quand on parle de l'inflation qui est à 1% en France, autour de 2% en zone euro, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Mais la hausse est contrôlée, maîtrisée comme nous le souhaitions. On a vraiment une bonne nouvelle de la victoire contre l'inflation.
François Villeroy de Galhau sur France 2 ce matin. 3 ans après, l'inflation a donc retrouvé son rythme d'avant-guerre. Mais entre-temps, les prix ont beaucoup augmenté. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Faisons le bilan avec vous en quelques produits.
Commençons Jérôme par les prix de l'énergie. Nous avons vécu un véritable choc gazier, reconnaissent aujourd'hui certains économistes, avec un prix multiplié par 10 au début de la guerre en Ukraine. Le niveau le plus haut a été atteint à l'été 2022 et les prix restent aujourd'hui légèrement supérieurs à ceux de 2017. Situation à peu près identique pour le pétrole, très forte hausse en 2022. Aujourd'hui, le baril est à 65 $, niveau retrouvé de 2018. Mais c'est bien sûr dans l'alimentation que les hausses ont été les plus spectaculaires. En moyenne, les prix ont augmenté de 20% en 3 ans avec des produits plus touchés que d'autres. Prenons le beurre, plus 34% depuis octobre 2021. Une plaquette de 250 grammes coûtait 1,82 € contre 2,44 € aujourd'hui. Autre exemple, l'orange. Novembre 2017, 2,12 € le kilo. Janvier 2024, on frôle les 3 €, car ce produit est aussi tributaire des conditions climatiques, sécheresse, mauvaise récolte et les prix s'envolent. Aujourd'hui, ils sont de nouveau orientés à la baisse autour de 2,80 € le kilo. Dernier exemple, emblématique de la crise Covid, le rouleau de papier toilette. Son prix a longtemps été stable en France, 28 à 29 centimes. Il coûte aujourd'hui entre 30 et 40 centimes le rouleau. Alors, du point de vue des économistes, oui, l'inflation est maîtrisée, ce n'est plus un sujet, disent-ils. Mais pour les consommateurs, les prix restent élevés et toujours tributaires d'un contexte géopolitique instable, d'un dérèglement climatique avéré et de spéculation financière.
Merci Agnès Soubiran. Là, il s'agit de relancer un marché qui est à l'arrêt, c'est celui des voitures électriques, moins 7% depuis le début de l'année. Par rapport à début 2024, voiture trop chère pour beaucoup d'automobilistes, alors le gouvernement va augmenter à partir de juillet les bonus à l'achat de ces véhicules. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Ce sera 4 200 € de bonus pour les ménages modestes et 3 100 € pour les autres.
Oui, ce qui ferait comparer aujourd'hui une hausse de 200 € pour les uns et de 1 100 € pour les autres. Alors pour l'instant, c'est un projet du gouvernement qui sera débattu dans 10 jours au Conseil supérieur de l'énergie, qui nous confirme d'ailleurs cette initiative. Si le texte est adopté, cette augmentation serait effective pour le le consommateur à partir du 1er juillet.
Et le gouvernement a de l'argent pour cela.
Jérôme, vous connaissez le contexte et ce besoin de faire des économies. L'exécutif a donc une idée, financer ce bonus non plus avec le budget de l'État, mais avec les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Pour faire simple, ce sont des aides financières proposées par les fournisseurs d'énergie pour par exemple l'achat d'un vélo électrique ou encore des travaux de rénovation énergétique dans son logement, comment remplacer sa chaudière au fioul par une pompe à chaleur électrique. Ces C2E, ils sont payés par les fournisseurs. Donc, vous l'aurez compris, à l'avenir, ce bonus à l'achat d'une voiture électrique serait donc financé par les fournisseurs d'énergie. Mmh. D'ailleurs, l'un d'entre eux m'a fait part tout à l'heure de son incompréhension, de sa colère. Un autre explique qu'au final, la hausse de ce coup de pouce pourrait retomber sur les consommateurs, sur leurs factures, car les C2E sont financés par leurs dépenses en matière d'énergie, comme l'électricité.
Luc Chemla pour ces informations sur les routes. Ce week-end s'annonce particulièrement chargé avec la Pentecôte. Lundi, ce vendredi est classé rouge dans le sens des départs. Fort trafic attendu vers les frontières du nord-est, la côte normande, mais aussi le quart sud-est du pays. Et puis des perturbations à suivre dans les prochains jours en provenance des taxis, puisque la Fédération nationale du taxi claque aujourd'hui la porte des négociations. Elle n'est pas satisfaite des propositions faites par le gouvernement et cette Fédération nationale annonce un durcissement de son mouvement. À Reims, une tour HLM, quartier de la Croix-Rouge, a donc pris feu la nuit dernière. L'incendie s'est déclaré au quatrième étage de cet immeuble et le bilan est lourd. 4 morts, dont un enfant et 2 personnes gravement blessées qui ont été transportées à l'hôpital. Alors, pas d'informations à ce stade sur les causes du sinistre. Le maire de la ville indique seulement que l'immeuble n'était pas vétuste. Sur place pour Inter, Léo Limon.
La façade de l'immeuble est carbonisée. Le cinquième étage où Gilles Patrick habite est détruit. Elle est enceinte et doit accoucher dans quelques jours. Elle a dû traverser les flammes pour sortir.
Je ne pouvais pas attendre parce que c'était soir. J'attends et il y avait déjà le feu qui montait dans ma cuisine. J'ai pris une couverture, j'ai mouillé. J'ai fermé les yeux, j'ai séché les escaliers, je suis descendu.
Certains habitants se sont réfugiés au 10e et sont sortis grâce à l'échelle des pompiers. Ruth Berlin vit au 4e étage, juste à côté de l'appartement qui a pris feu.
Les voisins juste à côté, j'entendais crier, je me posais la question d'où ça venait. En allant vérifier au Judas, je vois qu'il y a de la fumée. On est passé par les escaliers, on est descendu à toute vitesse et essayer de prévenir le maximum de personnes qu'on pouvait aussi.
Assise sur un lit de camp avec une couverture autour d'elle, elle s'interroge désormais.
On se pose des questions de comment on va gérer par la suite, que ce soit financièrement, avec le travail, parce que c'est compliqué.
Et le bailleur social Plurial Novilia assure qu'il cherche en ce moment des solutions de relogement pour ses rescapés.
Reportage ici Champagne-Ardenne, en Corse la nuit dernière. Nouvel incendie après ceux qui ont touché des bateaux de promenade en mer en début de semaine. Une agence de location de voitures a brûlé. Toujours à Calvi, alors que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est en déplacement dans l'île. 2 Algeco, 1 terrasse et 5 véhicules ont été détruits. L'incendie criminel est privilégié. Encore des risques d'orage aujourd'hui. 7 départements sont en vigilance orange. Savoie, Haute-Savoie, Haute-Loire et Loire, le Rhône, l'Isère et l'Ain. Ces orages éclateront en fin de journée, nous dit Météo France, avec de fortes chutes de grêle attendues. Prévision météo complète dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Les Américains sont prêts à faire face à Poutine. C'était il y a un an, 6 juin 2024, les mots de Joe Biden, alors président des États-Unis, lors des commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. En ce 6 juin 2025, des cérémonies internationales ont bien lieu sur place. Elles se déroulent cet après-midi sur la plage d'Utah Beach. Mais le ton a bien changé à la présidence américaine. L'heure est au règlement de compte entre Donald Trump et son ex-meilleur ami Elon Musk. Musk est devenu fou, a écrit cette nuit le président américain. En retour, le patron de Tesla l'a qualifié d'ingrat. Alors jusqu'où peut aller ce divorce? Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Chacun agite déjà des mesures de rétorsion et Elon Musk a commencé à sortir les dossiers dès cette nuit.
Lui qui se vante d'avoir fait élire Donald Trump fait tout désormais pour le fragiliser. en appelant d'abord à renverser les parlementaires qui soutiennent son budget. Aux élections de mi-mandat, l'an prochain, dit-il, il faut les sortir. Pas sûr non plus qu'il verse les 100 millions de dollars promis au groupe contrôlé par l'équipe du président. Sur X, Elon Musk demande même à ses 220 millions d'abonnés s'ils veulent un nouveau parti qui représente vraiment les 80% d'Américains qui sont au centre de l'échiquier politique. Et si la rupture entre les deux hommes est consommée, Elon Musk peut aussi porter un coup sévère au coûteux projet de bouclier antimissile voulu par Donald Trump, pour lequel sa société SpaceX doit déployer des milliers de satellites.
Quels sont les moyens de pression de Trump de son côté ?
Des moyens économiques, et c'est assez facile. Ses menaces hier de supprimer les contrats fédéraux avec Tesla ont fait chuter l'action de 14%. Et selon les comptes des analystes de JP Morgan, si les États-Unis suppriment durablement les subventions à l'achat de voitures électriques, Tesla pourrait perdre plus d'1 milliard de bénéfices par an. En matière d'aérospatiale, rien n'empêche non plus Donald Trump d'offrir à des entreprises concurrentes comme Blue Origin de Jeff Bezos des contrats avec la NASA et le Pentagone.
Bon, pour l'instant, il s'agit simplement de menaces. Comment tout cela peut-il se terminer ?
Clairement, aucun des deux n'a intérêt à se lancer dans une guerre fratricide, selon le média Politico. Des conseillers à la Maison-Blanche ont d'ailleurs programmé un appel téléphonique aujourd'hui entre les deux hommes pour les inciter à faire la paix.
Merci Isabelle Labéry pour ce décryptage. Et pendant qu'on casse la vaisselle à Washington, le monde brûle. La Russie a massivement bombardé l'Ukraine la nuit dernière. 400 drones lancés selon les Ukrainiens et un bilan d'au moins 3 morts à Kiev. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. S'agit-il, Sylvain, de la grande riposte promise par la Russie après le bombardement de ses bases aériennes le week-end dernier ?
Difficile d'être formel. Le Kremlin dit que c'est la guerre qui continue. L'armée parle de frappe de riposte. Effectivement, la presse russe, les blogueurs militaires, très populaires ici sur Telegram, ne sont pas tous d'accord. Pour certains, effectivement, l'heure des représailles a bien sonné. Le châtiment est tombé, titré ainsi le journal Argumenti Facti ce matin. Pour d'autres, il ne s'agit que d'un raid de plus sur l'Ukraine, mais tous s'accordent pour dire qu'il était massif, particulièrement au moins 407 drones, 44 missiles. C'est beaucoup plus que d'habitude, pourrait-on dire, surtout en ce qui concerne le nombre de missiles, comme si l'armée russe avait voulu montrer qu'elle n'avait pas souffert tant que cela de la destruction de plusieurs avions bombardiers dimanche dernier. À Moscou, on affirme qu'une une batterie de défense antiaérienne Patriot a été détruite. À Kiev, on insiste sur la destruction d'une usine aéronautique à Loutsk, dans l'ouest de l'Ukraine, la seule, dit-on, capable d'entretenir les réacteurs de MiG-29. On note surtout que les frappes de la nuit dernière ont de nouveau visé le système électrique, frappé plusieurs voies ferrées comme une réponse aux divers sabotages constatés ces derniers jours sur le réseau ferroviaire russe. Et comme souvent, les victimes civiles sont passées sous silence ici. Les rares à en parler accusent Kiev de se servir de sa population comme bouclier humain.
Merci Sylvain Tronchet. Pour son action à Gaza, le gouvernement israélien est visé par des plaintes de plus en plus nombreuses. Nous avons parlé ce matin de cette grand-mère française qui a perdu 2 de ses petits-enfants dans un bombardement et qui porte plainte pour homicide volontaire en tant que crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide. Et puis ce matin, le parquet national antiterroriste a ouvert une information judiciaire pour complicité de génocide, incitation au génocide et complicité de crime contre l'humanité contre des franco-israéliens qui sont soupçonnés d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza. Charlotte Piret, on vous retrouve, je reprends ce mot de génocide. Est-ce qu'il peut s'appliquer à la politique d'Israël à Gaza ? C'est un débat explosif, il monte depuis quelques jours. Qu'en disent les experts du droit international ?
Alors, dans la notion juridique de génocide, il y a 5 éléments matériels. Le meurtre, on s'en doute, mais aussi la volonté de soumettre un groupe à des conditions de vie susceptibles d'entraîner sa destruction ou celle d'empêcher de nouvelles naissances, par exemple. Et de ce point de vue-là, selon l'avocat spécialisé en droit international, Johan Soufi...
Alors, il n'y a aucun doute qu'au moins une partie des 5 actes qui sont susceptibles de constituer un crime de génocide sont commis à Gaza.
Mais on parle ici des éléments matériels. Pour qualifier un crime de génocide, il faut également une intention, la volonté de détruire, même partiellement, un groupe en raison de sa nationalité, race, ethnie ou religion. Ça, c'est ce qui reste à déterminer par la justice en ce qui concerne Gaza. Mais quoi qu'il en soit, même s'il est important, en droit comme en symbolique, d'utiliser la juste qualification, la communauté internationale est déjà obligée par ce qu'il se passe pour le peuple palestinien, rappelle Johan Soufi.
La convention de 1948 prévoit l'obligation pour les États de tout mettre en œuvre pour prévenir le crime de génocide. Or, le risque de génocide a déjà été établi par des experts de l'ONU, mais surtout par la Cour internationale de justice dans son ordonnance du 26 janvier 2024.
Enfin, ce qui se déroule à Gaza est susceptible aussi de s'inscrire sous la qualification de crime contre l'humanité, tout aussi réprimé.
Merci Charlotte Piret. Interrogée sur ce point ce matin sur Inter, l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian estime qu'on va vers un nettoyage ethnique à Gaza, c'est-à-dire des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Fin de citation. Lui a repris ce mot de génocide à son compte il y a 10 jours et pour la première fois. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Olivier Faure, reconduit dans ses fonctions par les militants. Hier soir, 24 000 avaient voté au premier tour. On verra combien ils étaient à le faire hier. En tout cas, on a les résultats provisoires. 50,9% des voix pour lui, 49,1% pour son opposant, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. C'était à peu près le même écart il y a 2 ans lors du précédent vote. Et on a toujours un PS coupé en deux. Bonjour Lise Rosveille.
Bonjour.
Pourtant, beaucoup des poids lourds du PS s'étaient engagés pour faire tomber Olivier Faure.
La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, la maire de Paris, Anne Hidalgo, des députés médiatiques, Jérôme Guedj, Philippe Brun, les maires de Montpellier ou de Saint-Ouen, des grandes figures socialistes aussi, Lionel Jospin publiquement, François Hollande en privé. Mais à la fin, c'est encore Olivier Faure qui gagne, pour la 4e fois. Le premier secrétaire garde de nombreux alliés, parmi les cadres, 145 parrains, et sur le terrain, dans les fédérations. Le soutien de Boris Vallot, le chef des députés socialistes, a aussi joué, et puis beaucoup reconnaissent qu'une figure plus charismatique que Nicolas Mayer-Rossignol aurait sûrement pu mettre Olivier Faure plus en difficulté. Les anti-Faure ont perdu leur pari, conclut un cadre. Mais la victoire du premier secrétaire n'est pas triomphale pour autant. Il est minoritaire dans les instances et sera obligé de travailler avec ses adversaires. « Il n'y a pas plus ouvert que moi », nous assurait Olivier Faure quelques jours avant le vote. Lui qui n'exclut pas de nommer Nicolas Mayer-Rossignol premier secrétaire délégué, comme il y a 2 ans. Un poste qui reste bien moins exposé que le sien.
Merci Lise Rosveil. Le premier ministre et 8 de ses ministres, eux, sont à Montpellier aujourd'hui. 3e comité interministériel des villes, une 40aine de mesures pour les quartiers prioritaires doivent être annoncées. 6 millions de Français vivent dans ces quartiers. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Vous suivez François Bayrou depuis ce matin, quartier de la Mosson à Montpellier. Le Premier ministre doit convaincre les habitants, mais aussi les élus qui sont sceptiques sur les promesses.
Et ce comité, figurez-vous, s'est même trouvé un slogan, l'enfant dans la ville. Oui, c'est bien le mot d'ordre officiel de cette réunion, d'où une première étape tout à l'heure en milieu de matinée dans une école à la Mosson.
Combien de classes seront ouvertes à la rentrée ?
22 au final et on commence à 7.
Primaire, maternelle, 3, 4 ?
Les deux.
École montrée en exemple dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville. En exemple aussi, un commissariat mixte flambant neuf. Il a coûté 4 700 000 euros. Mixte parce que police municipale et police nationale sont abrités dans les mêmes murs. Travail salué par François Bayrou.
Sans les financements nationaux qui portent le nom d'un très grand nombre d'agences, d'ailleurs, bientôt, tout ça sera à peu près unifié. La plupart des projets seraient impossibles.
Des projets ambitieux, certes, mais pour qu'ils voient le jour, il faut se battre tout le temps, regrette le maire de Montpellier, Michael Delafosse.
Moi, je dirais que je ne suis pas désabusé. Je dis qu'il ne faut rien lâcher. Mais vous n'avez rien. Il faut lever toutes les procédures pour faire avancer les projets. Il faut être agile du point de vue de l'organisation des politiques publiques. Il faut y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie.
D'autres maires ont des mots encore plus durs. Un élu de région parisienne qui n'est pas venu ici à Montpellier me confiait son découragement et même son dégoût face aux maigres moyens de la politique de la ville. Lors du précédent comité en 2023, il y avait eu 84 mesures. Un tiers n'ont pas été mises en œuvre à cause des contraintes budgétaires, précise une source gouvernementale.
Jérôme Val, en direct de Montpellier avec les moyens techniques de Virginie Lorda. Le Premier ministre qui a depuis quelques jours sur son bureau une lettre des unions régionales des professionnels de santé, médecins libéraux. Des médecins qui l'alertent sur les conséquences du cadmium sur notre santé. Une bombe sanitaire, écrivent-ils. Alors le cadmium est un métal lourd, utilisé dans les engrais phosphatés et qui se retrouve dans le pain, dans les céréales, dans les pommes de terre que nous consommons. Nous vous en avons parlé ici même hier, dans des termes très alarmant et voilà pourquoi je voulais qu'on aille plus loin aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Éric Blondet.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de la Conférence nationale des URPS médecins libéraux. C'est vous qui avez signé ce courrier. Vous pointez une explosion de la contamination des jeunes enfants en rapport avec leur alimentation. Quels sont les risques précisément ?
Très clairement, les risques connus par rapport à l'exposition au cadmium sont avant tout cancérogènes, avec notamment une augmentation nette de la prévalence, en tout cas du nombre de cancers du pancréas qu'on peut voir arriver dans les cabinets, notamment en médecine générale. C'est ce qui nous a d'ailleurs alerté. On a aussi, maintenant on le sait, un effet du cadmium lors d'une forte imprégnation de l'organisme sur une induction d'ostéoporose avec les fractures fémorales, vertébrales qui vont avec, et surtout une augmentation d'environ 2,7 fois le risque cardiovasculaire.
Et il y a plus de risques pour les enfants, ils sont plus exposés ?
Alors, on a en fait, dans les différentes études qui ont été menées, notamment sur les études alimentaires et de santé publique qui ont été faites en 2006 puis en 2016, on note une très forte augmentation des taux de cadmium chez les enfants. Et visiblement, ce sont les habitudes alimentaires qui expliqueraient en tout cas cette exposition et ces taux-là, notamment les céréales.
Ça veut dire concrètement que j'arrête de donner des céréales à mes enfants le matin ?
Alors, arrêter, encore faut-il trouver d'autres aliments à leur donner le matin.
Non, bah, pas du pain, manifestement.
Pas du pain. Ouais. Ce qu'il faut mettre, c'est voir un peu plus clair quel est l'impact en termes de taux de cadmium que l'on a en fonction des différents aliments. Et très clairement, la première chose que l'on peut faire de façon assez simple, c'est de varier et d'arrêter finalement une alimentation assez stéréotypée et réflexe, notamment au petit déjeuner, avec le réflexe de sortir le bol de cornflakes ou autre. Ça, c'est une première mesure facile à prendre par tous. Ensuite, nous, parmi les mesures qu'on attendrait et qu'on pourrait mettre sur la table, c'est de réfléchir sur un indicateur sur l'ensemble des aliments que l'on a en consommation courante de l'exposition au cadmium. Et puis, on a d'autres éléments également, hein, que ce soit le mercure, l'arsenic, etc.
Mais pour rester sur le cadmium, il faudrait réduire la teneur de ce cadmium dans les engrais phosphatés qu'on utilise en agriculture. Pour l'instant, le gouvernement ne le fait pas, ne l'a pas décidé.
Alors, pour le moment, ce que on sait, c'est qu'on a une origine de nos engrais phosphatés qui vient en fait de mines qui sont particulièrement riches en cadmium. Donc, ça explique en tout cas la surexposition au cadmium que l'on a dans nos sols en France. Voilà, par exemple le Maroc, que l'on a en France par rapport à d'autres voisins européens, notamment l'Allemagne, etc. Et c'est par ce biais-là le cadmium rentre dans la terre, reste dans le sol tant qu'il n'est pas réévacué via les racines dans les plantes. Et c'est quand on consomme ces plantes, ces légumes, c'est ces ça. Céréales, qu'à ce moment-là, on augmente et on s'imprègne de cadmium.
Mais ça veut dire qu'il faudra abaisser les normes ?
Il y a en tout cas une réflexion à mener sur les engrais qu'on utilise et le taux de cadmium dans les engrais qu'on utilise. Mais ça relève du ministère de l'Agriculture. Nous, c'est en tout cas pas notre sujet. Notre sujet, il est comment faire pour limiter cet impact, parce qu'on a des chiffres sur les études faites en imprégnation de cadmium, notamment chez les enfants, qui sont quand même dramatiques quand on voit qu'un enfant français va être 5 fois plus imprégné qu'un Américain, voire 15 fois plus qu'un enfant danois.
Donc varier l'alimentation pour nos enfants, c'est ça que je retiens, Eric Baudet.
La première chose à faire, c'est de jouer de toute façon la diversification alimentaire, ça c'est clair. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faudrait que l'on puisse, mais là c'est une réflexion à avoir au niveau gouvernemental, on a le Nutri-Score en valeur énergétique, graisse, sucre, etc. Je pense qu'il est peut-être une réflexion à avoir sur l'exposition à ce type de métaux et de produits dans notre alimentation.
Pour avoir toutes les informations. Merci Eric Blondet, président de la Conférence nationale des URPS médecins libéraux. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ce 13-14. Chaque jour, nous en apprend un peu plus sur l'envers du décor des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Après les dégradations et les violences dans plusieurs villes de France, les agressions sexuelles. Plusieurs femmes ont témoigné des gestes et des insultes dont elles ont fait l'objet lors de cette soirée. Alors, comment permettre aux femmes de faire la fête en toute sécurité ? La commune de Vic-Fezensac, dans le Gers, s'est posé la question il y a plusieurs mois. Elle organise ce week-end sa grande feria de la Pentecôte. Erwan Chassin, on vous retrouve. Cette commune a décidé d'aller plus loin dans la prévention.
Oui, des affiches choc, avec des affiches choc tricolorées, style dessin animé, sur lesquelles on peut lire par exemple « Si c'est non, remonte ton pantalon » ou « Si c'est pas oui, range ton zizi ». Des phrases courtes, efficaces, en tout cas c'est ce qu'espère la maire de Vic-Fezensac, Barbara Netto.
L'idée, c'était que ça soit percutant, que ça va sourire aussi, que les gens soient sensibilisés ou non à la question, en tout cas, que ça marque les esprits, que ça interpelle et qu'ils aient un petit sourire aussi en coin en disant « Ok, on a compris le message ».
Ouais, cela fait plus de 10 ans que les municipalités successives là-bas tentent d'assainir ces férias. Ces affiches sont en quelque sorte la dernière arme de dissuasion déployée par la mairie contre les agressions sexuelles.
des événements marquants. On en a eu peut-être davantage il y a des dizaines d'années. On sait que maintenant, la fête est beaucoup plus sûre et beaucoup plus encadrée. Mais il reste évidemment des sujets sur lesquels il faut faire attention. Il faut toujours être vigilant. Donc, c'est ça qu'on voulait rappeler.
Des affiches placardées un peu partout, dans les toilettes publiques par exemple, ou dans les bodegas. Ces bistrots du Sud-Ouest qui jouent un rôle important dans la prévention des agressions sexuelles, estime Séverine. Justement, elle est gérante d'une bodega.
Ces affiches, elles sont ludiques, simples. Le message est clair. Ça aide aussi les serveurs qui, du coup, derrière le bar, sont sensibilisés à faire attention aussi à ce que ça ne soit pas du harcèlement en cachette.
En 2012, cette grande fête populaire qui brasse plus de 30 000 personnes chaque année avait dû être suspendue pour 2 ans. Le temps pour la municipalité en place de trouver des solutions afin d'en améliorer la sécurité.
Merci Erwan Chassin. Un air d'Italie cet après-midi sur le cours central de Roland-Garros. 2 transalpins en lice en demi-finale homme, Lorenzo Musetti opposé à l'Espagnol Carlos Alcaraz, tenant du titre. Ça, c'est la première affiche. La seconde, le numéro 1 mondial, Yannick Sinner face au Serbe Novak Djokovic, pas avant 19h pour ce match. Tandis qu'en salle, un film fait un carton en ce printemps, Lilo et Stitch, remake avec des acteurs en chair et en os, du dessin animé sorti en 2002, près de 3 millions d'entrées en France pour l'instant, en tête du box-office cette semaine. Toutes les générations se déplacent pour voir ce film Disney qui n'avait pourtant pas convaincu les critiques. Alors comment expliquer ce succès, Margot Barallon ?
Une petite fille hawaïenne solitaire adopte une créature bleue monstrueusement mignonne. À l'écran, le remake en prise de vue réelle de Lilo et Stitch ne propose rien de neuf par rapport au dessin animé. Son succès repose donc d'abord sur la nostalgie, selon Sébastien Durand, consultant en communication et spécialiste de Disney.
Les gros succès des remakes qui ont fonctionné, comme Le Royaume, Aladdin ou Lilo et Stitch, c'est des remakes de films assez récents, au contraire notamment de Blanche-Neige. C'est assez lié à une forme de nostalgie des trentenaires d'aujourd'hui qui peuvent faire redécouvrir découvrir à leurs enfants dans un nouveau format des films qu'eux ont aimés versus les films de nos grands-parents ou arrière-grands-parents.
Mais le carton au box-office tient aussi à ce qu'est devenu Stitch, un personnage cultissime, champion des produits dérivés, des mugs, des t-shirts, des pyjamas, en peluche ou en Lego. Le marché de cette licence pèse plus de 7 milliards de dollars. Sami Wari, professeur en marketing.
Il est drôle, il est mignon. D'un point de vue purement technique, il est très simple à dériver en fait. Des grands yeux, monochrome, on est sur quelque chose qui ressemble à un koala. Je suis quand même allé demander à de nombreux parents pour voir l'attractivité du personnage. Et en effet, chez les enfants, c'est monstrueux. Tout est Stitch à la maison.
Et selon l'expert, les parents ne sont pas au bout de leur peine. Le nouveau film va probablement relancer une nouvelle vague de produits divers et variés qui se vendront à prix d'or.
Lilo et Stitch, vu par Margot Barallon, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust. Puis à partir de 13h30, on le surnomme le Barry White du tennis. Vous allez comprendre pourquoi. Il est l'un de nos meilleurs arbitres. Il est en ce moment à Roland-Garros. Il fait une petite parenthèse en passant par ce studio dans quelques minutes. Kader Nouni avec nous, 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, dernier épisode de notre feuilleton consacré aux poissons. Il est bientôt dans l'assiette et nous le dégusterons dans un restaurant de Nice. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Jean-Baptiste René et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jean-Baptiste, on parle de corruption dans le sport ?
Oui.
C'est pas possible.
Mais si, le club de Chartres a-t-il tenté d'arranger un match de National 3 ou est-ce au contraire son adversaire Tourangeau ? La Fédération française a ouvert une enquête parce qu'elle soupçonne des irrégularités la fin de saison, peut-être propice aux arrangements.
Voilà, il s'agit de soupçons, on le précise pour l'instant. Et avec vous Frédéric, une chanteuse lyrique.
La mezzo-soprano Lucille Richardot, sacrée artiste lyrique de l'année lors des dernières victoires de la musique classique. Et avec elle, c'est une chanson de Brigitte Fontaine et Jacques Higelin que nous écouterons. Chanson qui lui rappelle un garçon qu'elle aimait beaucoup, son meilleur ami quand elle avait 18 ans.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Mission décarbonation avec EDF.
La décarbonation des entreprises est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Bettina Lavaux, vous êtes responsable solutions énergétiques pour les entreprises chez EDF. Bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, comment EDF accompagne les entreprises dans leur décarbonation ?
Eh bien, chez EDF, nous nous engageons aux côtés des entreprises dans leur transition énergétique autour de 3 types d'actions. Réguler son activité pour consommer mieux et au bon moment, électrifier ses équipements et ses process, et produire sa propre énergie renouvelable et locale.
D'accord. Et alors, qui bénéficie de cet accompagnement et pour quel résultat ?
EDF propose des solutions adaptées à toutes les entreprises. Industrie, PME, tertiaire L'objectif, c'est de réduire ses émissions de CO2 et maîtriser son budget dans la durée.
Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.
C'était Mission Décarbonation avec EDF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. France Inter, partenaire des Eurockéennes de Belfort. Du 3 au 6 juillet, sur la merveilleuse presqu'île de Malsaucy. Pour cette 35e édition, 50 concerts pendant 4 jours avec Iron Maiden, Justice, DJ Snake, Damso, Clara Luciani, La Femme, Bicep et bien d'autres. Rendez-vous pour le meilleur week-end prolongé de l'année. Les Eurocks du 3 au 6 juillet. Un festival France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Jérôme.
C'est donc le retour de forts orages.
Oui, dans le sud après une pause hier. Hein, il se déclenche en fin d'après-midi ce soir et cette nuit en Auvergne-Rhône-Alpes avec 7 départements en orange. Des orages qui vont commencer par se développer vers l'est de l'Auvergne, puis se décaler et se multiplier en allant vers les Alpes. On surveille de nouveau de la grêle, de fortes rafales et des précipitations intenses. Plus au nord, les pluies de cette nuit et de ce matin traînent encore du nord Aquitaine vers Grand Est, mais elles faiblissent et elles ont laissé la place sur la moitié nord à un ciel souvent très nuageux. Avec un vent de sud-ouest bien établi et quelques averses. Au sud, le temps est sec, sous les nuages, bien souvent dans le sud-ouest, jusque dans le golfe du Lion, et le ciel est bien lumineux en Provence. On attend 17 à 23 degrés sur le nord et en Aquitaine, des températures timides pour la saison, mais il fera 26 à Toulouse comme à Lyon avant l'orage, et des pointes à 29, 30 degrés sont possibles entre la Méditerranée et le Dauphiné.
Olivier Proust, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Kader Nouni.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes arbitre de tennis, arbitre de chaise, l'un des meilleurs au monde. Vous arbitriez hier la demi-finale entre Sabalenka et Swiatek qui a vu la victoire de Sabalenka et sa qualification pour la finale. Est-ce qu'on vous verra demain arbitrer cette finale ?
Et non. En général, lorsqu'on fait une demi-finale, on ne fait pas la finale.
C'est pourquoi on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Exactement.
Sinon, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais vous avez déjà arbitré des finales en Grand Chelem. On va en parler ensemble avec les auditeurs qui sont déjà nombreux à nous appeler. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application Radio France. Kader Nouni, moi je voulais vous faire réagir au phénomène Loïse Boisson quand même, cette demi-finale. Hier, pour cette joueuse que personne ne connaissait, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous la connaissiez. Vous d'ailleurs, Loïse Boisson, vous l'aviez déjà arbitré ?
Alors, malheureusement, en tant qu'arbitre, on n'est pas amené à commenter...
Vous pouvez pas dire un mot des joueuses ?
Non. C'est pour ça qu'on fait pas beaucoup d'interviews, en fait.
Ah.
Donc malheureusement, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais pas pouvoir répondre à ces questions-là.
Vous pouvez me dire si vous l'aviez déjà arbitré ?
Alors ça, je peux vous le dire.
Oui.
Non, je ne l'avais jamais arbitré.
Voilà, vous ne l'aviez jamais arbitré, non. Donc peut-être vous l'avez découvert.
Je crois que je suis un peu plus vieux que...
Très légèrement, vous l'avez sans doute découvert
différence d'âge.
À l'occasion de ce Roland-Garros. On a quand même été frappé par sa capacité d'adaptation de cours, de tournois peut-être secondaires jusqu'au central. Le regard de l'arbitre, quand on change de cours comme ça, quand on arrive dans le central, quelle est la première différence ? Qu'est-ce qui frappe aux yeux ?
Alors, c'est vrai que pour un arbitre, c'est arbitrer sur le cours 7 ou sur le central, il y a une différence. Mais après, ça reste un terrain de tennis et on a l'habitude, en fait. On grandit comme ça, on évolue comme ça. On commence tous dans nos petits clubs avec des petits cours, avec des petites tribunes. Et puis ensuite, on gravit des échelons et on est amené à arbitrer dans des grands stades. Et effectivement, Roland-Garros, pour nous, en tant que Français, c'est un petit peu le temple du tennis, notre temple du tennis, c'est nous.
La différence, c'est quand même le bruit. C'est quand même l'ambiance.
Alors, effectivement, quand vous avez 15 000 personnes...
Par rapport au tournoi de Saint-Gaudens ou de Saint-Malo...
Ben, c'est pas la même chose, mais après, on fait avec, quoi. On a l'habitude aussi.
Question de Norbert qui nous appelle de Paris. Bonjour Norbert.
Oui, bonjour mesdames, messieurs.
Question qui a trait au bruit, justement.
Question simple à monsieur Barry White. Quels sont les pouvoirs de l'arbitre quand le public le conduit mal ou très mal ?
Bon, merci alors, Norbert. Alors Barry White, évidemment, clin d'œil à votre voix. On en parlera aussi, très grave, parce qu'on a beaucoup de questions sur ce point, sur votre voix qui marque beaucoup les téléspectateurs et les auditeurs. Kader Nouni, sur ce point, comment est-ce qu'on fait la police ?
Oui, alors on fait pas la police, mais en général, voilà, on essaie de tenir le public et la plupart du temps, ça se passe très bien. Mais effectivement, il peut y avoir toujours un ou deux petits soucis avec lesquels on arrive à gérer avec l'expérience. Et moi, en général, surtout en fait, quand on fait pas mal de Coupe Davis ou de Wellington Cup, où on a déjà le public, où on doit gérer les nations, les supporters des nations, on essaie de rentrer en contact visuel avec la personne qu'on sent qui va un petit peu engendrer soit des petits soucis.
Ah, vous identifiez les perturbateurs dans le stade ?
Oui, ça nous arrive des fois, oui, bien sûr.
Mais le central, c'est immense ?
C'est immense, mais en général, soit on les voit, soit ils nous voient, ou on peut très bien, s'il vous plaît, monsieur, l'interpeller, quoi, directement.
Mais ça veut dire que c'est vous qui faites la police et qui surveillez le rectangle ? Non, mais ça veut dire surveiller le rectangle, les joueuses, leur attitude, évidemment, la balle, elle est à l'intérieur ou elle est dehors, mais aussi le public, il faut gérer les deux.
Ah oui, bien sûr, ah oui, non, on dirait pas comme ça, mais on gère pas mal de choses, hein. On gère les joueuses, les ramasseurs de balles, les juges de ligne, le public, ce qui peut arriver de n'importe où, quoi. Enfin, on a une vision assez périphérique, hein. C'est un petit peu la base de notre job, ouais.
Est-ce que vous pouvez envoyer, par exemple, de la sécurité, des gens de l'organisation ?
Vous avez possible. Ah, oui, bien sûr.
Vous avez déjà fait sortir quelqu'un d'un cours ?
Pas non, mais il m'est arrivé sûrement de lui demander de se calmer. Sinon, effectivement, on appelait la sécurité et puis. Mais en général, on évite d'en arriver là, et ça se passe très bien en général. C'est souvent, aujourd'hui, il se passe pas, enfin, je dis pas qu'il se passe pas grand-chose, mais le petit truc qui va se passer, on va en faire un effet de loupe qui fait qu'on ne parle que de ça, alors qu'en fait, c'est vraiment minime. Quoi.
Avec les réseaux sociaux, par exemple.
Exactement, c'est un petit peu le souci. Hein.
Est-ce que vous sentez quand une joueuse est déstabilisée et qu'il y a un problème avec un spectateur ou avec une ambiance et qu'il faut justement la préserver ? Est-ce que c'est votre rôle aussi ?
Souvent, on est quand même.
Parce que toutes les joueuses n'ont pas le même seuil de tolérance, je suppose, à l'ambiance.
Oui, mais nous, on fait attention à ce que le jeu ne soit pas perturbé et qu'il ne dérange pas les joueurs. À partir du moment où il reste courtois entre les points, où il n'y a pas d'insultes, où tout se passe très très bien, et qu'il va être peut-être limite, mais on laisse faire, quoi.
En parlant de spectateurs véhément, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas démonstratif. Vous avez, je crois, il y a quelques années, eu un échange avec Jamel Debbouze à Roland-Garros. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, c'était un moment sympa. D'ailleurs, je l'ai revu derrière, on s'est parlé et puis voilà. Mais que je salue d'ailleurs. Mais parce que chaque année que je reviens à Roland, on m'en parle, donc donc non, c'était très sympa, on a bien papoté après, ça m'a permis de le rencontrer.
Mais vous pouvez nous raconter, il est dans les tribunes, c'est je crois l'une des premières fois qu'il vient à Roland-Garros, et donc il est assez démonstratif ?
Oui, il est démonstratif, mais ça reste assez correct quand même, c'est juste on a échangé un petit... En fait, il avait remarqué ma voix, tout simplement. Et donc,
il vous fait signe ?
Mais moi je suis fan de lui donc il me surnomme Barry White aussi et puis on se regarde et puis voilà et puis derrière on s'est parlé et j'étais ravi de rencontrer cet homme.
Et vous lui avez envoyé un message pendant le match ?
Un message, oui, un petit coucou, quoi. Un petit coucou sympathique.
Mais je sais pas comment vous arrivez à tout faire.
On voit pas mal de choses en fait.
Non, mais la concentration qu'il faut avoir, écoutez, dans l'intensité d'un match et en même temps tout ce qu'il y a autour.
C'est une habitude qu'on acquiert dès le... On commence par Roland-Garros. On commence, comme je vous disais tout à l'heure, sur les tournois de nos petits clubs, sur les tournois, sur des... Voilà, et on monte les échelons et puis le public est plus grand, mais après, tout reste la même chose. Hein. Enfin, on a deux joueurs ou quatre joueurs sur un terrain de tennis et on essaie de garder comme ça, de gérer la pression comme ça.
Est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour vous avant un tournoi du Grand Chelem ?
Je pense qu'on est tous différents. Moi, personnellement, alors, il faut savoir que moi, je suis sur le tour féminin et la plupart du temps. Et les tournois du Grand Chelem, parfois, on a des règles un petit peu différentes. Donc, on essaie un petit peu de se remettre un petit peu à jour à ce niveau-là. Mais ensuite, les avant-matchs, on se prépare différemment. Moi, je sais que, par exemple, pour hier, par exemple, la demi-finale ou voilà, une grosse demi-finale de Grand Chelem, Je me suis pas mal... moi, j'aime bien m'isoler un petit peu. J'aime pas arriver trop tôt au stade. Je parle pas beaucoup à beaucoup de monde avant. J'aime bien rentrer dans ma bulle. J'aime bien faire mes petits exercices de respiration. J'aime bien aussi me positiver, tout ça, et se dire que tout va bien se passer. Voilà.
Vous regardez les matchs précédents des joueuses que vous allez arbitrer?
Non.
Un peu leur attitude?
Non, parce que, un, je l'ai fait toute l'année, donc on se connaît, hein, donc voilà, on sait très bien un petit peu comment gérer les joueuses. Et puis on essaie surtout de, voilà, que tout se passe bien, il n'y a pas de raison en général.
Alors, le circuit féminin, quasiment exclusivement, pour quelle raison?
Parce qu'en fait, j'ai signé un contrat avec la WTA, avec le tour féminin, donc, et avec la WTA, donc avec ce tour-là, je vais faire une quinzaine de semaines dans l'année. Certains sont avec l'ATP, donc eux aussi vont faire une vingtaine de semaines dans l'année. Et puis, du coup, effectivement, je bosse beaucoup avec elles. Mais ça ne m'empêche pas de faire des tours ATP, comme j'ai fait cette année à Dubaï, ou de faire des matchs d'hommes sur les grands chelems.
On parlait de Jamel Debbouze à l'instant. Vous avez un point commun, au-delà de votre amour du tennis, avec lui. Vous êtes aussi un enfant des quartiers, pas du tout prédestiné pour faire carrière dans le tennis. Vous avez grandi à Perpignan. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le tennis?
Oula, c'est une très très longue histoire. Est-ce qu'on a le temps ou...
Allez-y.
Non, moi, moi c'est vraiment une vocation ou par hasard, quoi. C'était le tennis à l'époque coûtait énormément d'argent. Ouais. Moi, j'ai un grand frère. J'avais que ma maman. J'avais perdu mon père quand j'avais 2 ans, donc ma maman nous élevait toute seule. Et puis mon frère a vu gagner Yannick Noah en 83. Et puis moi j'avais 9 ans. Donc lui, il en avait 13, et il a voulu faire du tennis. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a été vraiment motivé pour ça, parce qu'il avait, on n'avait pas les moyens d'acheter une raquette, hein. Donc il avait carrément fabriqué cette raquette en bois là, et il jouait contre le mur du quartier. Et on a eu la chance d'avoir un club de tennis qui était juste à côté,
ouais.
Juste à côté du muret. On sautait le petit muret à l'époque. Et le président nous a proposé de s'inscrire dans le club de tennis, et de pouvoir payer en plusieurs fois les cours ou les terrains. Et surtout, c'était un passionné, il voulait que son tournoi de club soit arbitré, que tous les matchs soient arbitrés. Mais évidemment, à cette époque, personne n'arbitrait. Donc nous, avec mon frère...
Parce que personne ne voulait arbitrer?
Ben non. Dans les années, non. Dans les tournois comme ça, amateurs, on ne veut pas arbitrer en général. Mais nous, il nous payait un petit peu, donc ça nous faisait un petit peu d'argent de poche. Et l'histoire commençait comme ça. Moi, j'avais 12 ans et arbitrer des adultes, tenir tête à des adultes, et moi à 12 ans, leur dire que c'est moi qui ai raison, c'est moi le boss, c'était assez rigolo. Et au final, ça s'est pas trop trop mal passé, et les gens aussi aimaient bien la façon que j'avais d'arbitrer, du coup j'ai continué comme ça, et puis après le long parcours a commencé.
Il vous a fallu adopter les codes du tennis? Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas? Grandit pas dans cette ambiance-là, ou avec des parents, avec une famille qui est toujours dans l'ambiance tennis.
Dans ces années-là, effectivement, on n'était pas, il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas beaucoup de cadres ou de milouds, quoi. Donc voilà. Mais
vous en avez fait une force, peut-être.
Une force, je sais pas.
En tout cas, une singularité.
Mais effectivement, en fait, ça on le sait après.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, alors au départ, quand on commence à arbitrer. Et qu'on vous propose ses services à des tournois, à des clubs, ou même pour être juge de ligne, parce qu'on commence en tant que juge de ligne, on envoie des demandes en disant, voilà, je suis dispo pour cette semaine-là, est-ce que je peux venir arbitrer, ou est-ce que vous avez besoin de juge de ligne, comme ça. Et puis quand des cadres nous nient, je ne dis pas dans un CV, mais quand vous avez une liste de gens qui demandent à être juge de ligne, ben moi, on se souvenait de moi, quoi. Donc j'étais bon, donc ça va. Mais ça aurait pu être le contraire. Si ça n'avait pas été très très bon, ça aurait pu être vite radical.
Christian nous appelle d'Aulnay-sous-Bois. Bonjour Christian.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais savoir comment un arbitre arrive à savoir si la balle est à out quand elle est à quelques millimètres en dehors de la ligne. Moi, devant ma télé, je ne vois pas si elle est out, et vous le voyez tout de suite. Et en général, c'est très juste. Comment vous faites?
Merci Christian. Sachant qu'il n'y a pas l'aide de la vidéo à Roland-Garros. Cavernoni.
Comment je fais? Non, encore une fois, c'est une question d'habitude. Votre œil est entraîné. Voilà, tout simplement. On fait ça depuis, la plupart de nous, on fait ça depuis 20 ans. Et on a ce coup d'œil, on a cette habitude-là. Et puis on arrive. Et c'est vrai que parfois on se demande même, effectivement, est-ce que je vois la balle vraiment toucher le sol, mais c'est vraiment c'est un tout.
Vous avez le droit de descendre quand même, vous avez le droit de vérifier.
Ah oui, bien sûr, tout à fait. Non, sur terre battue, on a le droit de descendre, de vérifier, et ce qui est bien d'ailleurs. Bah, alors parfois, effectivement, il y a des terrains où les traces sont un peu plus compliquées, mais en général, bien sûr, on peut vérifier.
Manu est avec nous et il veut nous parler d'un des éléments de votre célébrité, Kader Nouni. Bonjour Manu.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Loire-Atlantique. Nous vous écoutons.
Ma question risque d'être un peu redondante par rapport à la première question du premier auditeur, Norbert. Bonjour à vous et bonjour Kader. Moi, je suis un fidèle téléspectateur du tennis et c'est grâce à votre voix que j'ai entendu, que je vous ai aujourd'hui, c'est pour ça que j'appelle la radio. Et je me demandais, par rapport, on a parlé un peu de l'aspect policier de l'arbitre, mais votre aspect spectacle, vous diriez que comment vous gérez par rapport à...
Le show peut-être un peu, spectacle. Je suis obligé de vous couper, Manu, on a très très peu de temps. Kader Nouni, ce personnage aussi que vous êtes devenu extrêmement grave et cette popularité qui est la vôtre.
Non, la voix m'a aidé déjà m'a aidé en tant que juge de ligne parce que j'annonçais les balles faute et donc on m'entendait bien. Ensuite sur la chaise effectivement quand vous dites à quelqu'un s'il vous plaît calmez-vous ou voilà un peu de silence s'il vous plaît, on a tendance à m'écouter un petit peu. Et ensuite, effectivement, en annonçant le score, j'aime bien varier un petit peu. Et souvent, en fait, quand on commence l'arbitrage, on n'annonce pas une double faute de la même façon qu'un point fabuleux. Ça se fait pas. On va pas s'extasier sur une double faute, mais on peut s'extasier un petit peu sur un grand point. Donc effectivement, je vais un petit peu varier et jouer avec ma voix.
Time out, me dit-on en régie. Donc je vous salue, je vous remercie Kader Nouni d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre passion et votre science de l'arbitrage à l'aube de ce grand week-end de tennis. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, c'est le dernier épisode au cœur de la pêche artisanale sur la Côte d'Azur. Nous étions avec les pêcheurs hier et avant-hier. Aujourd'hui, c'est l'assiette. Le poisson local est servi dans le restaurant d'Olivier Daniel à Nice, tout près du marché aux fleurs.
On est sur le quai des États-Unis, donc vraiment face à la mer. Et sous ces arches, si vous regardez sur les colonnes, il y a des numéros. Et les numéros correspondaient à des pêcheurs. Au début du siècle passé, à Nice, il y avait des pêcheurs, ils remontaient leur bateau de ce côté et ils allaient pêcher là, ils sortaient leurs poissons ici et il était vendu directement sous les arches. Donc ça, c'était avant, il y avait beaucoup de familles qui en vivaient. Aujourd'hui, ils sont plus que deux, ce qu'ils sortent, c'est pas grand-chose. Ils ont le droit de pêcher du Cap de Nice jusqu'à l'aéroport, donc la zone est assez limitée. Bonjour, je m'appelle Olivier Daniel, je suis niçois, copropriétaire du restaurant Babel Babel. On a ouvert il y a à peu près 6 ans. On propose une cuisine en fait de produits, une cuisine inspirée par la Méditerranée. Et surtout, ce qu'on a depuis le début, ce sont des poissons. On propose des poissons qu'on grille au barbecue et qu'on va chercher tous les matins en fait au port de Nice. Et là, premier arrivé, premier servi, mais il n'y a pas de réservation possible. Faut se lever, faut y aller et faut être prêt à attendre des fois une demi-heure, 45 minutes, une heure, qu'ils reviennent.
Qu'ils reviennent, c'est Steve Molinari.
Exactement, on ne se voyait pas travailler avec quelqu'un d'autre. On a cette volonté de proposer un produit entre guillemets d'exception et qui est assez rare à la fin. À Nice, ils sont deux à se partager le gâteau et ils ne sortent pas non plus tant de poissons que ça. C'est des petits bateaux, on n'est pas sur des modèles comme A7 où il y a des gros bateaux, des chalutiers, tout ça. La pêche de Steve, c'est une pêche artisanale où on va vraiment ressentir les saisons. Par exemple, en ce moment, avec l'eau qui se réchauffe, il y a beaucoup de merlan et de mostel. C'est un poisson blanc qui ressemble un peu au merlan, un poisson assez allongé. Ce sont deux poissons qu'ici, on aime donner aux enfants, quoi. Il n'y a pas trop d'arêtes. La chair se détache assez facilement. C'est assez fin, c'est assez simple. Après, en ce moment, qu'est-ce qu'il a ? Il a aussi quelques calamars, poulpes, les corbes aussi, ce qu'on appelle le loup de roche ici, qui sont délicieux. Alors, est-ce que les gens viennent chez nous pour le poisson de Steve Molinari ? Alors, pas vraiment. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir déguster ces poissons, quoi. C'est assez exceptionnel. Et à Nice, d'ailleurs, on n'est pas beaucoup à y aller tous les jours. Mais par contre, on a aussi bien évidemment beaucoup d'habitués qui viennent vraiment pour ça et qui savent ce qu'ils mangent. Allez, je vais vous amener en cuisine, voir qu'est-ce qu'on a comme poisson. Cuisine à l'étage, exactement. Ici, c'est un petit endroit. Hein. Babel, ça fait 100 mètres carrés. Axel, est-ce que ça serait possible que tu me montres les poissons qui restent dans le frigo, s'il te plaît ? Merci. Ouais, ça a été ? Là, ce soir, donc, il nous reste une tonine et quelques mérous.
Oui, ils sont impressionnants. Il y a le poids à chaque fois.
Exactement. En fait, ce qu'on fait, c'est que tous les matins, quand je les ramène, on les pèse, on met le poids dessus et ensuite, on les nettoie et on les garde comme ça. Voilà. Bon, généralement, dans la journée, c'est parti, mais ça peut se garder facilement quelques jours. Et plus le poisson est gros, mieux il se garde. C'est vrai qu'on pourrait les présenter, mais on ne prend pas trop le temps de faire ça. Ils sont juste à la carte. Les gens connaissent, ils connaissent, ils connaissent pas, ils connaissent pas. On n'est pas vraiment gastro, il n'y a pas de chichi, exactement. Nous, on est plutôt simple, on n'est pas trop dans le show.
Olivier Daniel dans son restaurant Babel à Nice. Au micro de Cécilia Arbona, vous retrouvez ces trois épisodes ainsi que notre émission de mardi au large de Nice sur l'application Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi à 13h50, la France du sport avec Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. Jean-Baptiste, direction Chartres aujourd'hui où le club de foot est cité dans une affaire de corruption.
Oui, même la cathédrale tremble sur ses fondations. Le C Chartres Football, club de la ville beauceronne d'abord connu pour son chef-d'œuvre gothique, est soupçonné d'avoir arrangé un match. Alors, on n'est pas encore à l'aube d'une nouvelle affaire OMVA. On est ici en National 3, c'est-à-dire la 5e division, et il ne s'agit encore que de soupçons nés de l'ouverture d'une instruction par la commission de discipline de la Fédération française. Mais une rencontre a attiré l'attention, celle de la dernière journée de championnat disputée le 17 mai. Pour Chartres, qui accueillait le FC Ouest Tourangeau, c'était tout simplement le match de la montée. En cas de victoire, il accédait à l'échelon supérieur, le National 2. Chartres a finalement été battu, 3-1, et donc privé de montée. Mais la fédération, sans donner plus de précisions, soupçonne des irrégularités. Mmh. Autrement dit, elle soupçonne que certains acteurs du club chartrain, joueurs ou dirigeants, aient proposé à certains Tourangeaux de lever le pied en échange d'une somme d'argent.
Oui, ce qu'on comprend, c'est que même si cette tentative a eu lieu, elle n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné de résultat.
Pas vraiment, et le club de Chartres a d'ailleurs saisi le procureur de la ville pour dénonciation calomnieuse. Il va même plus loin, en ajoutant deux plaintes pour corruption active et corruption passive. Pour dire les choses clairement, il accuse Tours d'être à l'origine de la tentative de corruption. Voilà ce que dit Philippe Lefort, l'avocat du club, chez nos confrères de l'Éco-Républicain. Ils, les joueurs de Tours, ont demandé à Chartres de leur donner de l'argent pour accepter de perdre. Je ne dévoilerai pas les preuves, mais elles vont sortir dans peu de temps et elles sont accablantes. Selon le camp chartrain, les approches auraient eu lieu dans les jours précédant la rencontre et les joueurs tourangeaux auraient demandé un mois de salaire pour laisser filer le match. Alors c'est bien sûr contraire à toute morale sportive. Pourtant, ce genre d'épisode est loin d'être isolé.
Il y a d'autres cas.
Oui, le printemps du football, c'est toujours un peu particulier. Chaque fin de saison, quand vient l'heure du dénouement, les histoires ou soupçons de corruption fleurissent sur les pelouses de France. Rien que ces dernières semaines, la FFF a ouvert une autre enquête autour du match de National entre Versailles et Bourg-Péronnat, joué le 25 avril. En National 3, un joueur de Thonon-Évian a dénoncé anonymement des tentatives d'arrangement. Selon lui, des membres du club de Cessinet auraient proposé 300 euros à chaque joueur de Thonon pour perdre volontairement. 300 euros, c'est peu et beaucoup à la fois, à un niveau où la moitié des joueurs ne peuvent pas vivre de leur pratique et où ceux qui y parviennent gagnent à peine plus de 1500 euros par mois. À la fin des années 2000, certains dirigeants d'Arles-Avignon avaient élaboré un autre stratagème. Aux joueurs adverses qu'ils tentaient de corrompre, ils disaient en gros « lève le pied et si on monte en fin de saison, on te prend dans notre équipe l'année prochaine ». Pour revenir à Chartres, les résultats de la dernière journée de championnat n'ont pas encore été homologués par la fédération. En attendant l'issue de l'enquête, les statuts de la cathédrale retiennent leur souffle.
Bon, on va suivre l'issue de ces enquêtes avec vous, Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. De C'est la France à C'est une chanson. C'est la mezzo-soprane Lucile Richardot que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Sacrée artiste lyrique de l'année lors des dernières victoires de la musique classique, elle donnera pas moins de 5 concerts la semaine prochaine, notamment à l'auditorium du Musée d'Orsay mardi, puis à l'auditorium de la Maison de la Radio vendredi avec le chœur de Radio France. Et c'est une chanson de Brigitte Fontaine et Jacques Higelin qu'elle a souhaité que l'on écoute, « Cet enfant que je t'avais fait », une chanson qu'elle a découverte l'année de ses 18 ans.
Je suis en prépa, en hypocagne, au lycée Henri Poincaré à Nancy, donc c'est pas très loin de ma ville natale, Épinal. Coucou encore au passage, comme à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. Et puis voilà, je rencontre des amis que j'ai toujours aujourd'hui. Et voilà, c'est l'effervescence. Alors parfois on bosse, parfois on révise ses cours, mais parfois on découvre un peu autre chose. Et à l'époque, il n'y avait pas trop Internet, ou alors c'était les balbutiements. On n'allait pas chercher tout plein de choses sur YouTube, mais on avait des disques où on en empruntait à la médiathèque. Et donc j'avais un de mes meilleurs amis de l'époque, Christophe Nicolas, qui m'a fait découvrir plein de choses. Mais Christophe n'est plus là. Et ça va faire 20 ans cette année que voilà, il a décidé de nous quitter. Et à chaque fois que j'entends Brigitte Fontaine, même aujourd'hui avec sa mue significative, je me souviens toujours avec émotion de ces années où j'ai découvert plein de chansons de Brigitte Fontaine.
Grâce à lui.
Oui. Ouais. Et puis alors lui, il se prenait un peu pour Brigitte Fontaine aussi. Il aimait bien copier un peu ses postures, sa façon de parler. « Bande de petits cons, monsieur le chef de gare », etc. Et puis il se prenait des attitudes avec sa cigarette aussi. C'était parfait avec cette phrase « Offrez-moi une cigarette !»
Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu?
Offre-moi une cigarette.
En 1968 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Une chanson dans laquelle un homme interroge une femme qui ne répond pas, mais divague. Et cette divagation pour Lucile Richardot laisse libre cours à toutes les interprétations.
Moi, au départ, je pensais que c'était juste quelqu'un qui était un peu à l'image de Christophe, qui était un peu perdu dans un monde parallèle, qui était un peu malade, et qui le vivait quand même très bien. Et bon, je sais que... Au départ, cette chanson a été écrite sur l'avortement, mais moi, je me raconte plein d'autres choses là-dessus. Ça peut être pour une personne d'un certain âge, un début de démence cérébrale, d'Alzheimer, de plus savoir où est-ce qu'on a mis les choses pourtant les plus essentielles, de ne pas reconnaître ses propres enfants, de penser qu'ils sont peut-être encore vivants alors qu'ils sont morts. Et moi, j'aime bien quand on ne sait plus ce qu'il faut comprendre qu'une chanson.
Mais je t'en supplie, souviens-toi, où as-tu mis ce bel enfant?
Est-ce que vous avez su pourquoi votre ami Christophe avait choisi de mettre fin à ses jours ?
Oui, parce qu'il entendait beaucoup de voix. Il était schizophrène, hein. Il était traité, pas depuis très longtemps. Moi, quand je l'ai connu, pour moi, il était juste sympathiquement perché. Mais malheureusement, parfois, les gens un peu hyperactifs, un peu surdoués, ça cache des maladies mentales et de la grande souffrance. Puis il a un jour décidé d'arrêter ses traitements. Et dans un soir de délire... Il a repris soudainement ses médicaments qui devaient lui faire du bien, et un peu trop. Et puis un beau jour, la police m'a appelé parce que j'étais le dernier numéro qu'il avait dû passer avec son portable. Voilà, donc c'est un souvenir funeste, mais c'est un bon souvenir aussi, car je suis très heureuse de l'avoir connu.
Est-ce que cette chanson, vous vous souvenez de l'avoir chantée avec votre ami Christophe ?
Oui, mais moi je faisais Jacques Higelin, et lui il faisait Brigitte Fontaine. Il prenait sa cigarette et puis il me disait « Offrez-moi une cigarette ». Bah oui, maintenant, mais tu l'as déjà, ta cigarette. Puis on se refaisait la scène. Voilà.
C'est quelqu'un qui vous a beaucoup manqué par la suite ?
Il me manque toujours. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de passer dans sa ville natale, à Briey, en Meurthe-et-Moselle, eh ben, je vais faire un tour sur sa tombe. Moi, je penserai toujours à lui.
Que disiez-vous ?
Cet enfant que je t'avais fait, Brigitte Fontaine et Jacques Higelin. C'était donc, Frédéric, les confidences de la chanteuse lyrique Lucile Richardot.
Lucile Richardot qui m'a transmis ce message. Elle souhaiterait aujourd'hui retrouver la famille de son si cher ami Christophe Nicolas. Il a écrit, m'a-t-elle dit, de très beaux poèmes. Elle aimerait les mettre en musique.
Ils peuvent donc rentrer en contact avec elle ou avec nous. Le message est transmis. Merci Frédéric Pommier. Encore quelques notes pour vous remercier d'avoir été nombreux avec nous cette semaine. Remercier aussi l'équipe de ce 13-14 à la technique, Arnaud Caillé, Marie Potier et Céline Guéribi, la rédaction en chef Estelle Schmitt, Thibaut Cavaillès, Sébastien Sabiron et Cécilia Arbona, assistés de Rachid Zourdani, Nicolas Sabat, Swad Bellani et Stéphane Rousset. Merci également à notre chargée de programme, Claire-Sophie Collet.